There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mais je te le dis, hein, c'est, j'adorerais te dire que j'étais dès le départ fait pour la paternité, mais non, je pense au contraire que j'étais pas fait pour, et ça a été une vraie surprise. Je pense pas être un père parfait et tout, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'application.
Que le père parfait nous jette la première pierre.
Je l'attends, lui.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Jean-Luc Lemoine. Salut Jean-Luc.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah plutôt bien jusque-là. on n'a pas commencé, donc tout va bien.
T'appréhendes un peu?
Non, mais même pas.
Ok.
Je me sens très en confiance, je sais pas si j'ai raison.
Comme j'en suis à peu près au 100e épisode, je pars du principe que...
Ouais, normalement, il y aurait déjà eu des plaintes.
Ouais. J'aurais peut-être même arrêté.
Oui, vois, c'est ça.
En tout cas, merci beaucoup de venir dans l'Histoire de Daron. Je suis toujours très... J'ai plein de gratitude, en fait, pour les personnalités qui viennent me parler de paternité, parce que c'est un sujet dont on parle pas assez. Et je trouve que quand tu viens, toi, en tant que Jean-Luc Lemoine, avec Laura qui t'accompagne, venir parler de paternité, c'est aussi une occasion de faire parler, en fait, de permettre à d'autres pères d'entendre parler de paternité. Je crois que c'est vraiment hyper important qu'on se réapproprie le sujet, tu vois, parce qu'on est en 2021, il est temps, quoi.
Bah, carrément, ouais.
Pour te présenter rapidement, alors c'est très compliqué de te présenter, parce que tu fais plein de choses qui sont, d'une manière générale, en rapport avec l'écriture, c'est ça?
Ouais, l'humour en général. Ouais. J'ai tapé dans tout, j'ai commencé.
J'ai tapé dans tout.
Non, mais c'est vrai, j'ai fait de la radio, j'ai de l'écriture dans un journal qui s'appelait Info du Monde, qui était un journal parodique. La base, c'est la scène. Moi, je viens de la scène, j'ai commencé comme ça. Et puis, ça a déclenché plein de choses. Je me suis mis à écrire pour le cinéma. Et puis après, j'ai écrit pour des jeux télé. Et finalement, j'ai fait de la télé.
Waouh. Donc, plein de trucs. Et là, tu remontes sur scène?
Ouais, c'est ça. Parce que j'ai le fil directeur de tout ça, c'est la scène. Et j'ai jamais quitté la scène. Et j'ai besoin de ça. Parce que sinon, ça devient une démarche intellectuelle. Moi, j'ai besoin de la sanction du public, d'aller me frotter à ça. J'ai jamais retrouvé cette sensation ailleurs.
Tu veux dire dans les autres médias, c'est ça?
Exactement.
En télé et tout. T'as un nouveau spectacle que j'ai pas encore vu, mais que je suis très heureux de voir, qui s'appelle Brut,
ouais.
C'est ça? Et qui sera donc, tu joues à la Nouvelle Ève du 4 au 13 novembre, c'est ça?
C'est ça, ouais. 4, 5, 6 et 11, 12, 13.
Et après, tu vas te balader un peu ou?
Partout, ouais, partout en France. Et puis même, je vais chez les gens, hein, s'ils m'invitent. Je suis pas bégueule.
T'es pas bégueule. En termes de paternité, comment ça se passe? Quel est ton statut exactement?
Mon statut, je suis le fier parent de deux enfants.
Bravo.
Dont une petite fille dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Oh, bah bon anniversaire.
Voilà, Violette qui a 11 ans et d'un grand garçon qui s'appelle Gaspard.
Et qui a
14.
Qui a 14, ok. Donc t'es en plein dans...
L'adolescence.
Le dur.
Oh là. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, ouais. On est passé vers un autre stade. On m'avait prévenu, mais tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas.
Ouais, je crois qu'en plus, il y a un peu ce truc de, tu vas voir, l'adolescence, c'est dur, mais tu vois, c'est un peu, bon, bah, tu vas voir, c'est compliqué, mais en fait, on t'explique pas comment ça se passe concrètement pour toi dans ta vie, quoi, tu vois. On va en parler un peu, si
ouais.
Tu veux bien. La première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venu, Jean-Luc, cette envie de faire des enfants?
C'est venu tard. Enfin non, c'est pas venu tard, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'inquiet à la base et je me disais...
Parce que attends, là t'as
51,
ok.
51, j'ai eu mon fils donc j'avais 37.
Ouais.
Et la première chose déjà, j'attendais de rencontrer la bonne personne.
Ce qui est
à la base.
Une bonne chose.
Ouais, et d'autant plus quand tu commences à avoir des enfants. Moi j'ai dit toujours à ceux qui se lancent dans cette aventure, faites attention, il faut vraiment... aimer la personne avec qui vous faites l'enfant, parce que le couple va morfler après, c'est obligatoire. Donc ne pas faire un enfant juste pour recoller le couple, c'est la mauvaise solution. Oui. Enfin, ça va vous faire très très gaffe. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
Oui, je crois que t'as raison. Et il y a un peu ce truc aussi de quand tu dis ça va morfler, il faut vraiment le dire.
Ah ouais.
Ça va morfler, les gars.
Et moi, je saute un petit peu. Peut-être que je spoil, mais moi, le premier mois où j'ai eu mon fils. J'adorais mon fils et tout, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ma vie est finie. J'ai l'impression de ne vivre que pour lui. Et on était 24 heures sur 24 sur l'enfant. Et il pleurait toujours et il était même pas content. Donc, c'est vrai qu'il a fallu renoncer à plein de choses. Moi, tu sais, à 37 ans, ce qui fait que t'es, même si t'es en couple, ça faisait 5 ans que j'étais avec ma compagne. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment. Mais on s'était habitué, on avait j'avais presque des réflexes de vieux garçon un peu égoïste en me disant, allez, c'est toujours tu fais des soirées d'impulsion. Il est 19h et tu te dis, bah, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va regarder. Puis là, tu profites de la vie parisienne aussi. Et puis, dès que t'as un enfant, c'est fini tout ça. Il faut que tu prévois. Il faut que tu anticipes. Et c'est un changement, une bascule qui est difficile. Hein.
Moi, j'ai fait ma première fille est née quand j'avais 28. Et je crois que c'est pas du tout enfin, tu vois, les 10 ans qui nous séparent à ce moment-là, il se passe plein de choses.
Ah ouais, ouais, vraiment. Et je sais pas, tu vois, je me suis dit, est-ce que ça aurait été mieux si j'avais eu mes enfants plus tôt? Ou je crois qu'il y a des avantages dans l'un comme dans l'autre, parce que j'ai l'impression d'avoir bien vécu ma vie de jeune adulte et d'en avoir bien profité. Et je suis arrivé à un moment où c'était plus une démarche volontaire que c'était pas quelque chose. C'était quelque chose de très raisonné. Je me suis dit, j'ai 37 ans, j'aimerais bien pouvoir jouer au foot avec mon enfant. Au moment où lui aura envie, ça me paraissait idiot. Je savais pas si j'aurais un garçon ou une fille, parce que là il se trouve que j'ai une fille et je joue plus au foot avec ma fille qu'avec mon fils, donc tu vois, c'est pas une question de sexe, mais je voulais pouvoir être encore un peu alerte, ou en tout cas avoir l'illusion que je suis alerte. Et donc on s'est dit c'est le moment. Mais je mentirais si je disais que c'est quelque chose qui me dévorait, parce que j'étais tellement inquiet professionnellement. Je me suis dit, je veux pouvoir assurer, il faut que je sois accompli. Et je crois que c'est en discutant, on s'est dit, mais en fait, je serai jamais apaisé, quoi. Donc, il faut se lancer.
Let's go.
Ouais.
Et donc, comment ça se passe, cette première... Enfin, l'autre question, c'est, est-ce que tu te souviens du moment où tu vas apprendre que tu vas être papa?
Ouais, bien sûr, je me souviens. Déjà, il y avait eu... une première, un premier cas où on devait être parents, et puis malheureusement ça a pas tenu, donc ça a été un premier coup, quoi. C'est enfin, tu le prends un peu violemment, et puis après la deuxième fois, comme t'as été échaudé par la première expérience, tu fais attention, t'oses pas en parler parce que justement t'as peur de te porter la poisse, et puis quand tu t'aperçois que ça y est, il arrive, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et en plus, moi, j'ai eu des enfants qui... Enfin, mon fils, il est arrivé vraiment à terme. Hein. À terme, ouais. Il voulait pas sortir. Donc, on a eu le temps d'en profiter.
Comment s'est passée cette première grossesse pour toi? T'as des souvenirs particuliers?
Ouais, c'était assez particulier. J'étais assez admiratif de ma compagne, parce que elle s'est mise en mode maman tout de suite, quoi. Tu sais, on buvait des petits coups de temps en temps. Et là, du jour au lendemain, ah, plus rien. Et elle était en mode maman, et j'étais très admiratif de ça. Et puis en même temps, tu sais pas comment te positionner. Tu dis, c'est bien, mais est-ce que ça va pas être une relation, est-ce qu'elle est plus vers l'enfant que vers moi? Tu sais plus comment te positionner, t'essayes d'être là au soutien, t'as envie de participer, mais évidemment qu'il y a quelque chose qui se passe moins, parce que toi t'es extérieur à ça. Donc c'était une expérience très très particulière.
Ouais. T'avais un peu peur pour ton couple?
Bien sûr, parce que tu sors d'un rapport d'exclusivité. Maintenant, tu partages, et puis surtout, ton amour se dilue différemment. Mmh. Et encore, c'est un mauvais terme, diluer. C'est juste que il se multiplie.
Ouais.
Parce que diluer, on aurait l'impression qu'il y en a moins. Mmh. Non, c'est juste que ça s'organise autrement.
Mais tu le sais pas forcément, en fait, au départ, qui va se multiplier. C'est, pour moi, il y a un peu ce truc de quand tu démarres, t'es là, est-ce que il y en aura moins pour moi, quoi.
Exactement, parce que en plus, c'est la paternité, c'est une leçon d'humilité. Hein. Moi, je suis allé avec plein de principes, plein d'a priori, et puis finalement, après, tu gères ce que tu peux.
comment se passe l'accouchement pour toi, la rencontre avec ton fiston?
Ah, c'était un truc de malade. C'est-à-dire que il voulait pas sortir et
comment ça, il voulait pas sortir?
Il voulait pas sortir. On arrivait à terme et il voulait pas. Et puis ma compagne a été à la clinique et la sage-femme a en fait juste comme ça, elle a percé la poche, voilà. Ça risque de venir bientôt. Et dans la nuit, il est arrivé. Et donc, ça s'est passé assez vite. Moi, j'étais dans la salle d'accouchement. Et là, tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Tu sais pas ce qui t'arrive. J'ai pas filmé l'accouchement, évidemment, parce que ça.
T'aurais pu. Hein,
ouais. J'ai filmé quand il était dans la couveuse après. Ouais. Et donc juste après, il est venu assez rapidement, en trois quarts d'heure. Mais après, je te raconterai ma fille, c'est encore pire. Et j'étais face à lui, j'ai encore des images de lui, vraiment, il a 20 minutes et il essaie de trouver sa respiration et tout. Et j'ai eu la bonne idée de lui montrer quelques années plus tard ces images. Et je pense que c'était une idée foireuse parce que ça lui a fait tellement bizarre, ça l'a ému. Et je crois pas que ça l'ait rendu très heureux de se revoir à ce stade-là, alors que je pensais que c'était un moment qui pourrait l'émouvoir. Et ça l'a trop ému, je crois.
C'est-à-dire non, mais trop ému.
Bah, il a pleuré, quoi. Il a pleuré alors que c'était pas le but.
Non, c'est pas grave de pleurer.
Ouais, mais c'était pas ce que je voulais.
C'était pas l'intention.
Non,
en tout cas.
Non, c'était juste parce que j'étais ému et puis.
Ça l'a ému de joie, lui.
Peut-être. En tout cas, ça l'a troublé parce que mon fils est assez taiseux. Il n'exprime pas, donc je pourrais pas te garantir exactement ce qu'il a ressenti à ce moment-là.
T'as pas essayé d'aller chercher?
Non, j'essaye, mais après je respecte ça.
Ouais, je comprends. Et toi, comment tu te sens en fait quand tu te dis, bah, déjà tu parlais de cette projection de jouer au foot peut-être avec ton fils, ouais. Tu vois. Comment tu te sens sur le moment quand tu fais cette rencontre?
Je me sens, je suis super ému et en même temps d'un seul coup j'ai l'impression qu'il y a une montagne de responsabilités qui me tombe sur les épaules. Et déjà, la première responsabilité, moi, qui m'a... Alors, ça va paraître stupide, mais c'est quand j'étais à la mairie pour déposer... Et au moment où l'employé de mairie me dit « C'est quoi son prénom ?» Et là, tu sais, il y a un truc débile. Tu y as pensé avant et tu dis « Est-ce qu'on changerait pas maintenant ?» Et parce que là, mais c'est terrible de donner un prénom à un enfant qui va porter toute sa vie, quoi. Moi, je me dis « Mais si ça se trouve, il va pas l'aimer. » Enfin, tu te poses des questions, mais complètement débiles. Et puis...
C'est une grosse responsabilité.
Ah ouais.
C'est ta première grosse responsabilité, en fait, de...
Ben, c'est ça.
De venir dire comment tu nommes cet enfant.
C'est ça. On avait décidé avec sa maman, mais tu dis « Bon... » est-ce qu'on veut toujours ça? Est-ce que c'est vraiment le bon? Puis je dépose Gaspard. Et puis après, mon père m'appelle et il me dit alors, il s'appelle comment? Je dis Gaspard. Et il fait non, mais sérieusement. et en fait, il faut savoir que mon père est complètement phobique de tout ce qui touche au rat et au souris.
Voilà. Okay.
Et le nom argotique des rats parisiens, c'est les Gaspard.
Ah.
Et donc, il croyait que je lui avais fait une farce, justement, pour l'écouter. Et pas du tout. Non, non. Et puis, bon, après, il a trouvé ça très bien.
Mais c'est quand même terrible. Je crois que c'est aussi un truc auquel tu penses quand tu donnes un prénom, c'est comment les gens vont le recevoir.
Complètement. Et puis, tu penses à plein de choses. Comment les gens vont le recevoir, quel va être son surnom dans la cour d'école. Enfin, tu fais attention à tout. Et ouais. Puis après, ça...
C'est pas un truc où il va se faire bolosser aussi.
Exactement.
Il
faut faire attention. Et puis, il faut que ce soit cohérent avec ton nom de famille. Parce que si je l'avais appelé Bradley Lemoine, c'est compliqué, tu vois. Avec un nom qui fait un peu franchouillard, tu peux pas faire n'importe quoi non plus.
Comment ça se passe le retour à la maison?
Mais
c'est horrible.
Ouais, non, mais alors j'étais super flippé, quoi. Et quand on est sorti de la clinique, je me suis dit mais merde. Donc là, ça y est, c'est à nous. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Et moi, je me sentais très démuni, quoi. Déjà, quand j'allais à la clinique, je posais des questions, mais vraiment de néophyte et un peu débile. Et il y avait, je disais, mais il faut le changer.
En même temps, t'es néophyte.
Ouais, mais je pense qu'il y a des papas plus préparés que moi, où j'avais pas compris. Je crois que j'ai demandé à une des dames de la clinique, mais il faut le changer toutes les heures. Fait non, à chaque fois qu'il fait ses besoins. Fait ah bon? Ah d'accord. Ok, ça fait beaucoup. Fait oui. Je fais ok, j'arrête mes questions, je me débrouille. Et puis on est parti. Et puis là, d'un seul coup, t'es face à ton enfant, tu l'emmènes chez toi. Et avec sa maman, on était assez inquiets parce qu'en plus, elle l'allaitait, donc il y avait toujours cette crainte de se dire est-ce qu'il a pris assez ou pas. Donc on a fait un truc qu'on n'a pas reproduit pour la deuxième, parce que t'es un peu plus serein, t'as un peu plus l'habitude, mais on avait pris une balance.
Okay.
Une balance pour le peser après chaque tétée pour savoir à peu près. Mais tu deviens fou, quoi.
C'est une grosse pression en plus qu'on te met dans les premiers jours. Je crois qu'il y a aussi ce truc sociétal de il faut que tu fasses attention à ce que ton enfant perde pas de poids, etc.
Exactement. Exactement. Et autant quand t'as un biberon, quand le biberon est fini, tu sais. Quand il tète, c'est plus compliqué, quoi.
Ah, c'est vrai, j'ai jamais perçu comme ça.
Ah bah ouais, c'est ça. Et puis comme en fait il tète efficacement pendant la première partie, puis après c'est du confort. Donc moi j'étais admiratif de ma compagne qui passait un temps et elle avait une patience. Et c'est vrai que là d'un seul coup, bah toi tu sers pas à grand chose. C'est très confortable pour la nuit. Parce que bah c'est pas toi qui te lèves,
ouais.
Mais sinon pour le reste, ouais, il y a un lien qui se crée sous tes yeux.
Mais je trouve qu'il y a un truc qui est terrible, c'est que tu sers pas à grand chose pendant la grossesse, tu sers pas à grand chose pendant l'accouchement non plus, parce que bon, enfin si tu peux servir, tu peux masser, tu peux être,
ouais.
tu peux être présent, etc. Mais globalement, que tu sois là ou que tu sois pas là, ton enfant il va naître.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et assez rapidement, en fait, tu te rends compte que ton rôle en tant que père, il est très très difficile à trouver. Comment t'as fait, toi, pour trouver ton rôle dans les premières semaines et les premiers mois, comme ça?
En tâtonnant, vraiment. Je te dis, j'avais plein d'idées préconçues, et puis après, tu te positionnes...
C'était quoi les idées préconçues que t'avais?
Bah non, mais déjà, tu sais, tu pars avec plein de principes d'éducation, et puis très vite, tu te rends compte que, bon, c'est pas du tout le moment, hein. Là, il faut juste aller à des trucs très, très concrets. Il faut lui changer les couches, il faut lui donner le bain, il faut faire des choses comme ça. Et puis surtout, tu te dis... Moi, ce qui me faisait peur, c'était la fragilité. J'avais l'impression que c'était de la porcelaine. Et bon, heureusement, c'est faut faire attention, mais c'est moins fragile que ça, quoi. Mais au début, tu dis... tu sais, j'étais content quand j'ai commencé à être tranquille en le prenant dans mes bras. Tu vois, sans inquiétude. Mais voilà. Et puis, t'as toujours quelqu'un avec qui tu présentes ton enfant. Il fait, ah, non, mais non, il faut lui tenir absolument la nuque, tout ça. Et tu dis, ah, mais bah, ça va, si tu vas pas m'apprendre, c'est mon fils, hein, ça suffit maintenant. Et voilà, et puis on a fait des bêtises aussi, c'est-à-dire que un jour il s'était griffé, on l'a désinfecté avec un petit truc qui était un petit peu trop acide, donc il avait une petite marque rouge, et même encore aujourd'hui on sait où elle est, on la voit encore, cette petite cicatrice qui c'est des petits détails, mais en même temps je me dis que je m'en sors pas mal, parce que si je prends mon cas perso, moi quand j'étais gamin, mais le nombre de cicatrices que j'ai eues, voilà, c'est pas une science exacte, et puis il faut accepter tout ça.
Oui, et puis je suis d'accord avec ça. Est-ce que, je sais pas à quel point t'étais sur scène et en tournée pendant les premières années de ton fiston, comment tu es arrivé à gérer le fait de partir et d'être à distance comme ça, et en même temps avoir ta vie de papa?
Très mal.
Ouais.
Très mal. Et c'est, pour le coup, c'était une énorme surprise pour moi. Je vais pas mentir. Je pensais que j'allais être très détaché par rapport à la paternité. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'était plus un acte raisonné qu'une envie profonde.
Oui, t'avais pas envie d'enfant depuis. Enfin, tu vois, j'ai des mecs parfois qui viennent et qui me disent, moi, j'ai envie d'enfant depuis que j'ai 16 ans. Quoi,
non.
Tu vois.
Ouais, moi, c'était pas le cas. Je me disais qu'un jour ou l'autre, oui. Mais c'était. En plus, je suis pas dans une famille où il y a beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que il faut savoir que dans ma famille, je l'ai eu à 37 ans, il n'y avait pas eu d'enfant depuis 37 ans.
OK.
Voilà, donc c'était pas quelque chose de très commun, et donc je me suis dit je vais prendre ça avec un peu de recul. Et au début, mais c'était enfin je me suis pris la paternité en pleine tronche. C'est devenu une passion. Et quand j'allais sur des tournages, si je pouvais rentrer un jour plus tôt, je demandais à rentrer un jour plus tôt. C'était quelque chose de vital. J'avais besoin d'être là. J'avais besoin de ce contact. Et même si quand j'étais là, pour être honnête, je disais, oh putain, c'est fatigant quand même. Donc, il y avait toujours ce yo-yo permanent en se disant, je veux être au plus près de mon fils. Et en même temps, c'était tellement énergivore. Moi, le premier mois, c'était compliqué, quoi. Vraiment, vraiment. Je me suis dit, on n'y arrivera jamais.
Ça t'a surpris, toi, d'être à fond, à ce point-là, à fond sur, sur ton môme, il y a un truc qui s'est déclenché chez toi avec le recul.
Ah vraiment, vraiment. Mais je te le dis, hein, c'est. J'adorerais te dire que j'étais dès le départ fait pour la paternité, mais non, je pense au contraire que j'étais pas fait pour, et ça a été une vraie surprise. Je pense pas être un père parfait et tout, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'application.
Que le père parfait nous jette la première pierre.
Je l'attends, lui.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
très bien. Et donc, quelques années plus tard, vous vous dites, on va remettre ça, pourquoi pas?
Ouais.
C'est quoi l'état d'esprit? Parce que toi, t'es en plus dans ce truc de, ok, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de. Est-ce que, à un moment donné, vous vous dites, ça serait cool de faire un petit frère ou une petite sœur à Gaspard?
Ouais, on s'est dit ça, et puis, c'est vrai qu'on nous disait, qu'un enfant seul, souvent, il s'ennuie un petit peu. Alors c'était formidable parce que comme Gaspard, le premier était dans un monde d'adultes, à 2 ans c'était du délire, il parlait mais ça c'était, j'étais vraiment mais...
Comment ça il était dans un monde d'adultes?
Il n'avait pas de petit frère, petite sœur, il fréquentait, bon il avait quelques copains et à la crèche et tout, mais donc j'ai l'impression que très très vite il a acquis le vocabulaire très très vite et à 2 ans il parlait remarquablement bien, ce qui était pour moi très très surprenant. Et puis après on s'est dit... voilà, c'est peut-être le moment aussi de lui rajouter un petit frère ou une petite sœur. Donc on s'est lancé dans cette aventure, et puis c'est là où Violette est arrivée. Mais il y avait une volonté, je crois, de on ait 2 enfants qui puissent jouer aussi ensemble, qui puissent se trouver, et puis on avait envie de remettre ça, quoi. On avait envie de remettre ça, même si c'est tombé à un moment un peu compliqué, parce que quand la compagnie tombée enceinte, moi j'animais une émission sur France 2 qui s'appelait le Bureau des Plaintes. Mmh. Et le Bureau des Plaintes a été arrêté au bout de 3 mois et demi. Et donc je me suis retrouvé au chômage, quoi. Et là j'ai commencé à me prendre une vague de stress. Mmh. Parce que je me suis dit, putain, mais comment je vais faire, quoi? Là j'ai 2 enfants. J'ai plus de boulot. Là c'était un peu compliqué.
Comment t'es arrivé à rebondir?
En sollicitant, en démarrant des projets et tout, mais c'est la première fois où j'ai eu je me rappelle, j'ai eu un jour une crise d'angoisse comme ça, et j'ai appelé ma femme et je lui ai dit rentre, parce que là j'ai l'impression que je suis en train de tomber. J'ai vraiment cru que je faisais une attaque.
Okay.
On venait de m'annoncer que l'émission s'arrêtait. Et c'est la première fois qu'on m'a fait un électrocardiogramme.
Ah oui.
Ouais. Et ça m'a rassuré. Et c'est tout con, mais je me suis dit, c'est extrême, hein, et c'est peut-être ridicule, mais je me suis dit, il faut que je voie ma femme et mon fils une dernière fois. Ouais. J'ai vraiment paniqué, comme c'est pas permis.
En fait, je me demande à quel point ça. Tout ça est aussi lié à la paternité, parce que je crois qu'il y a un truc à un moment donné t'as peut-être moins peur de la mort. Quand t'es plus que toi-même face à la mort, tu vois.
Tu sais que alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi ça a changé beaucoup de choses aussi sur ma façon de percevoir ma carrière. Je me suis toujours impliqué à fond dans tout ce que je faisais et tout, mais peut-être que depuis longtemps je fais du one man, mais je suis pas sûr d'avoir un ego de one man show, tu vois. C'est des gens qui sont très auto-centrés, alors que moi je le suis, parce que de toute façon si tu penses que t'es assez intéressant pour que des gens viennent te voir en spectacle et te regardent toi, c'est que t'as quand même un minimum d'ego. Mais j'ai pas un ego surdimensionné, et d'un seul coup d'avoir des enfants, je me suis dit, je ne construis pas que ma vie, quoi. Et ça m'a donné un nouveau moteur. Je me suis dit, je construis aussi leur avenir. Et ça m'a fait un bien fou aussi. Ça m'a donné une responsabilité, mais quelque part, ça m'a donné un nouvel objectif. Et je pense que c'était nécessaire.
Et en même temps, ça t'a rajouter des angoisses.
Ah ouais. Bah, c'est-à-dire que tu vis tout plus intensément, ce qui fait que quand ça tourne mal, là, tu dis, ouais, mais comment je vais faire pour nourrir ma famille, pour faire tout ça, ouais, là, tu te dis, j'ai plus le droit de faillir, quoi. C'est ça qui est flippant. En plus, tu dis, bon, ça va être les jeunes années, puis après, tu t'aperçois que non, un enfant, là, tu prends pour perpète, hein.
Oui. Parce qu'après, ils vont faire des études.
Faire des études, et puis de toute façon, ça restera tes enfants à vie.
Oui.
Donc, c'est juste les problèmes qui changent avec l'âge. Mais il y a toujours des trucs. Et puis, en même temps, je crois que c'est pareil pour nos parents et tout. Quand tes parents, t'es content, même que tes enfants aient encore besoin de toi.
Ah, tu crois ?
Ouais, moi, je pense que... évidemment que les parents râlent tous. Mais le jour où t'as l'impression que tes enfants n'ont plus besoin de toi, c'est une petite mort, quoi.
Ah, ok.
Non, tu sens pas ça comme ça?
Je sais pas. Moi, je crois que j'ai un peu ce truc de... En fait, c'est super si elles sont autonomes et qu'elles peuvent vivre sans moi, au contraire, tu vois.
Ah
ça
ouais
veut dire, il y a un peu un côté mission accomplie, quoi, tu vois.
Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Et puis, ouais. L'idée, c'est pas du tout qu'ils vivent sous perfusion.
Oui.
Mais j'aime bien l'idée qu'ils se disent que, s'il y a besoin, ils peuvent venir.
Ah oui.
Quoi.
Dans ce sens-là, ça, j'entends.
Voilà.
Je vois ce que tu veux dire.
Ouais.
Qui est quand même, tu vois, c'est pas couper les ponts, quoi, tu vois.
Non. Ouais, exactement.
Tu me racontais tout à l'heure que l'accouchement de Juliette était, de Violette, était encore plus rapide que celui de ton fiston.
Ouais. Moi, j'étais. On habitait dans le 19e arrondissement et l'obstétricien de ma compagne, c'était dans le 16e. Et donc.
Pour les gens qui n'habitent pas à Paris, ça fait quoi 40.
C'est-à-dire que ça dépend à quel moment de la oui. journée. Là, c'était il y a 11 ans. Donc, ça roulait un peu mieux qu'aujourd'hui, mais ça roulait déjà pas bien. Et puis, d'un seul coup, ça se déclenche. Il est 7h du matin au moment où les gens vont au boulot. Et là, tu dis, comment on fait là? Comment on fait? Donc, je prends ma voiture, on part, et elle perd les os sur le périph. Et c'est là où je me suis rendu compte que je pense, tu sais jamais ce que tu dégages. C'est-à-dire qu'elle perd les os sur le périph, elle morfle comme c'est pas permis. Et elle me regarde, elle me fait, je suis vraiment désolé pour la voiture. Et je me suis dit, mais je suis vraiment un monstre, quoi. Parce que, il y a plein de choses à gérer et elle s'est dit que j'allais l'engueuler pour la bagnole. Et tu dois être un tortionnaire qui s'ignore. Et j'arrive à la clinique de la muette. Dans le 16e, j'ai juste le temps de me garer. Et puis ma meuf me dit, ça sort, elle sort. Je fais mais non, attends, je fonce, je vais chercher des gens. Fais vite, venez. Et donc, moi j'étais garé en double file. Ils viennent la chercher. Ils disent non, vous en faites pas, c'est bon, paniquez pas, ça va aller. Et puis moi je dis bon, je me gare et j'arrive. Je sors de la muette, il y a quelqu'un qui fait « Ah, c'est pas vous, cher Ruquier ?» Je fais « Excusez-moi, c'est pas le moment là, c'est vraiment pas le moment. »
Donc, ça m'en parle.
Ouais.
Ça fait partie de ce genre de moment où t'as pas envie d'être célèbre.
Ah ouais. Non, c'était gentil, mais c'était vraiment pas le moment. Oui. Et donc je monte dans ma bagnole, je fais le tour du pâté de maison, j'arrive, je reviens dans la clinique. J'entends des bébés pleurer et je dis il y a ma femme qui est rentrée, elle est dans quelle salle d'accouchement, ça y est, elle est sortie.
Oh merde.
Et en fait le bébé que j'entendais pleurer en arrivant, c'était ma fille. C'est-à-dire que elle avait raison. Elle sortait et puis elle commençait à se déshabiller dans la voiture et les sages-femmes disaient non mais là, calmez-vous, c'est pas ça. Et en fait ma fille sortait vraiment et elle a failli sortir dans l'ascenseur.
Waouh.
Et là donc j'ai manqué l'accouchement pour le coup, mais là c'était parce qu'elle est sortie tellement vite, mon fils 3/4 d'heure, ma fille 1 minute. Voilà. Donc je pense que si on faisait un ratio et puis le nombre d'heures de travail dans la salle, je pense que je bats des records pour 2 enfants.
Bah ouais, c'est clair. Et surtout quand on pense à toutes les femmes qui mettent parfois des heures et des jours et pour travailler quoi.
Ah, tu m'étonnes.
On n'est pas tous égaux face.
Non. Mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus confortable pour elles surtout.
Ouais.
Et puis j'aurais bien aimé être là, mais et voilà. Donc elle était pressée, Violette.
Comment ça se passe? T'es content d'avoir une fille? C'est toujours ce truc de du papa qui veut avoir sa fille, machin. Est-ce que c'était ton cas un peu?
Non, très sincèrement, j'aurais été content si c'était un garçon ou une fille. Ouais. Mais même si j'avais eu une fille en premier, j'étais content d'avoir un enfant, quoi. Et puis je suis parti vraiment sans idée reçue. J'aurais pris ça comme un cadeau quoi qu'il arrive. Et après, bon, tu dis, bon, c'est cool, on a un garçon, une fille. Ce qu'ils appellent le choix du roi, je sais pas si vraiment ça a encore un sens de dire des choses pareilles. Mais non, moi j'étais juste content. Et puis, tu sais, on dit, ouais, après tu vas voir avec ta fille, t'as un rapport particulier. Et puis, en fin de compte, non. Moi, on a un rapport particulier, mais c'est venu assez tard, quoi. J'étais pas du tout... dans un rapport privilégié, j'étais pas son héros ou quoi que ce soit. Ma fille, très très vite, elle était déjà contrairement à son frère, elle a parlé beaucoup plus tard,
okay.
Vers 3 ans, et donc on se disait, mais tiens, comme t'avais le modèle du frère qui avait parlé très très tôt, ça nous inquiétait, et c'est terrible parce que là, comme on était assez flippés, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on voit un ORL et tout ça, et puis t'as toujours des gens qui sont un petit peu pushy, quoi. Et là, on nous a dit, il faut, ouais, il y a peut-être un souci, puis il faudrait l'opérer des végétations, et puis ceci, cela. Je me dis, oh putain, quand c'est petit comme ça, t'as pas envie de les faire passer. Et je me rappelle, on avait prévu une opération à Debré, et je sais pas pourquoi, mais juste avant, la chance quand t'as quelques amis... qui sont dans le métier, moi, en l'occurrence, c'était Michel Simès, je l'ai appelé, je lui dis, mais,
Michel Simès, qui est donc présentateur, enfin, ouais, qui est tout bim, en fait, à la base.
Bah, et ORL, en plus. Ouais. Et je lui dis, je vais faire opérer ma fille demain, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, tu fais ce que tu veux, mais je pense que c'est un peu prématuré. On a finalement ce qu'on pensait, on se demandait s'il y avait un petit problème ORL pour l'apprentissage. On l'a pas fait et elle a commencé à parler 3 semaines plus tard. Et voilà, mais c'était juste, t'as toujours une pression, t'as toujours peur que ça se passe mal. C'est pour ça que quand je te dis, t'y vas avec beaucoup d'humilité, t'as des inquiétudes qu'il faut gérer, il faut faire gaffe. Ouais, j'avais vécu un truc horrible avec ma fille. Tu sais, normalement, on te dit, en dessous d'un certain âge, faut pas qu'elle ait de la fièvre, un enfant. Ouais. Sinon, il faut vraiment aller à l'hôpital tout de suite. Et elle avait 38,5, et tout de suite, tu vas à l'hôpital, et c'était un enfer, quoi. Et ils ont fait une ponction lombaire pour vérifier, ouais. Et tu dis.
Elle avait quel âge?
Ah, mais elle était toute petite, elle avait pas 1 an.
Ah ouais.
Et là, vraiment, là, ça te tord. C'est un des gros traumatismes, quoi.
C'est vrai?
Ah ouais, vraiment. De toute façon, moi, je suis pas serein du tout. Ce qui me rend le plus mal, c'est quand mes enfants sont malades. Mais n'importe quoi, hein. Ça peut être une gastro et tout. Je vis plus tant qu'ils sont malades. Je sais pas si toi, t'as eu ce même genre de...
Bah, il y a un peu ce truc de j'aimerais bien prendre toute ta douleur, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu, pour ça, je trouve aussi que l'amour, parental, il est hyper ingrat, c'est que t'as pas envie que tes enfants soient pas bien, en fait, mais ça fait partie de la vie, quoi, tu vois, c'est ça aussi qui est terrible.
Exactement, et puis j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que je me fais des idées, mais j'ai l'impression que mes parents étaient plus détendus que moi, quoi. Bon,
peut-être qu'ils le disaient moins, je crois. Tu vois, il n'y avait pas de podcast où ils pouvaient venir parler.
Ouais, c'est sans doute ça.
Paternité.
Ouais, il n'y avait pas de traces. Donc, donc de toute façon.
Mais je crois que s'ils avaient, tu vois, tenu un journal ou je sais pas quoi, c'est pas impossible qu'ils étaient aussi flippés. Enfin, je sais pas. Peut-être aussi qu'il y avait moins d'infos et de cette. Peut-être qu'ils se prenaient moins la tête. Fin...
Ouais, et puis on parle d'une époque, moi c'était les années 70, donc c'était une époque où il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Enfin. Moi, mes parents fumaient pas, mais t'avais des parents qui fumaient dans la voiture. Enfin, tout. Enfin, au niveau attention que tu portais à l'enfant, c'était beaucoup plus détendu. Hein.
Et toi, de ton côté, effectivement, de vivre à ce moment-là, ce moment aux urgences et tout avec ta fille, ça te fait quoi? Ça te fait dire quoi?
Ah, mais moi, c'était horrible parce que je me rappelle très bien pourquoi, parce que c'était un jour où il y avait eu une neige comme il n'y a pas eu à Paris depuis je sais pas combien de temps, ce qui fait que on part avec ma femme dans les rues de Paris en glissant, en dérapage et tout ça, et après ils font pas les examens tout de suite, il faut les laisser là. Sauf qu'il faut que toi tu rentres pour t'occuper de ton fils. Ils sont gardés 48 heures.
Ah oui.
48 heures, et les 48 heures étaient interminables. Tu te dis, mais pourquoi ça prend autant de temps? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et en plus, c'était inaccessible à cause de la neige. Donc, ça a été un moment de flottement total. Mon fils, il s'est dit, mais elle est où maman? Ouais, elle est où Violette et tout?
Il est grand, quoi. Il comprend.
Il a 3 ans et quelques, et il était inquiet. Et c'est la première fois où j'ai senti de l'inquiétude chez lui. Et ça, c'était quelque chose.
Bah aujourd'hui, ils sont grands.
Ouais.
Enfin, ils sont en pleine adolescence, tu disais.
Le fils, ouais.
Ah, tu crois qu'à 11 ans, enfin, ta fille est pré-ado, quoi.
Ouais, elle vient de rentrer au collège. Je crois qu'il y a...
Le collège.
On m'avait dit ça, et puis je me suis dit, non, quand même pas. On m'avait dit, tu as tes enfants, dès qu'ils rentrent en 6e, il y a une bascule. Donc, ma fille est rentrée en septembre au collège, et je pense que ça va aller vite, mais elle est dans un entre-deux encore.
Ouais.
Elle est toute mignonne, et elle est encore... c'est encore ma petite fille. Et puis, en même temps, tu sens que... Voilà, ça va basculer vers la préadolescence.
Moi, c'est l'année de quatrième qui m'a chez mes filles. C'est vraiment ce truc, cette année-là, et elle est charnière à plein de niveaux, mais vraiment où elle bascule vraiment de. Ok, je suis vraiment une ado, quoi. Tu vas voir.
Et t'expliques ça comment?
Je sais pas, mais je crois qu'il y a un moment donné où elle quitte vraiment l'enfance. Elles veulent plus y retourner, surtout pas. Et en fait, il y a un peu ce truc de bon. En fait, maintenant, j'ai le droit d'être. Je suis bientôt dans les grands du collège, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Il y a un peu ce truc.
Ouais, j'imagine que ça doit être ça, ouais. Moi, mon fils, la quatrième, ça a été particulier, c'était l'année Covid, hein, donc.
Ah, oui.
Donc, j'ai pas ressenti aussi fort, mais là, ouais, lui il est dans la préadolescence, mais dans l'adolescence même. Hein, on peut le dire.
Comment ça se passe? Tu disais tout à l'heure, on le raconte pas et tout. Bon, alors sans venir raconter des histoires qui leur appartiennent. Mais toi, comment tu vis ce moment d'adolescence là avec tes enfants?
C'est compliqué parce que t'as pas envie d'être un parent lourdingue et tu veux surtout préserver leur vie privée, quoi. Je comprends qu'ils aient pas envie de tout me raconter. J'essaie de respecter ça. J'essaie juste de leur faire comprendre que sans m'immiscer dans leur vie, s'il y a besoin, je suis là. Et moi, ce qui me fait peur, c'est avec tous les réseaux sociaux et tout ce que tu peux avoir de harcèlement, tout ce que tu peux entendre. Je veux juste leur faire passer le message que surtout, s'il leur arrive quelque chose, s'ils ont un souci ou un leur pote, qu'ils le gardent pas pour eux. Voilà. S'il y a des choses qui sont difficiles à porter pour un enfant et comme il y a des difficultés de communication. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit une chose très juste, parce que t'apprends hein, toujours hein, quand t'es parent, et quelqu'un m'a dit une chose, et j'essaie de l'appliquer, il m'a dit, quand votre enfant veut vous parler, arrêtez tout. C'est-à-dire, lui dites pas, non mais attends, je finis mon autre travail, je lui en parlerai, parce que c'est de grandes chances que quand vous allez le revoir, il aura plus envie de parler. Et il faut être disponible à ce moment-là, parce que c'est des moments ratés, et c'est des rendez-vous qui peuvent être super importants, parce que c'est peut-être le moment où il avait enfin décidé de s'ouvrir d'un truc personnel, et ça peut paraître idiot, mais 20 minutes plus tard, peut-être qu'il aura plus envie.
Ah, c'est sûr.
Et on le récupérera pas. Donc, j'essaie de m'appliquer ça. Et voilà. Donc, je respecte leur jardin secret, mais j'essaie de suivre quand même de près ou de loin et de leur faire comprendre que voilà, c'est OK. C'est pas que je me désintéresse, je respecte. Mais voilà, n'hésitez pas.
Comment vous gérez les réseaux sociaux en tant que parent? C'est vraiment une question ça actuelle, je trouve.
Écoute, moi j'essaie de les freiner pour l'instant, ils y sont pas trop. Je sais que mon fils a demandé un compte Insta. Donc je lui dis t'es sûr et tout. Et puis pour l'instant, il m'a pas relancé. Donc bon, maintenant il a 14 ans, donc il pourrait. Mais je suis assez méfiant. En plus moi j'ai un rapport particulier parce que j'ai notamment sur ça dépend du réseau en fait. Je voudrais pas qu'il soit sur Twitter, Insta peut-être, c'est un peu plus bienveillant, mais voilà, je suis très très vigilant à ça parce que justement moi j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai vu quand même des choses. T'as pas envie que tes enfants soient exposés à ça.
Ouais,
et puis tous les faux profils qui viennent te troller. J'ai envie de les préserver un minimum.
C'est un truc que tu subis toi en tant qu'artiste aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Les réseaux et.
Alors, il y a des bonnes choses, hein. Il y a une majorité de bonnes choses, et franchement, ouais, j'ai pas à me plaindre, je suis pas la personne la plus trollée sur ça, mais entre les faux comptes à mon nom, les faux profils qui essayent de rentrer en contact avec toi, des gens qui essayent de déterrer des vieux tweets juste pour essayer de créer des, d'allumer des incendies, alors que franchement, il y a quand même des gens qui ont rien à foutre, et surtout qui sont pas animés par des bonnes intentions. Donc, l'idée, c'est pas de faire croire à mes enfants que le monde est magnifique et tout ça, mais je me dis que voilà, juste prendre le temps, ils auront le temps de se confronter à ça, et t'as envie de préserver une petite part d'innocence, même si elle disparaît, mais je voudrais qu'elle disparaisse à leur rythme, qu'il n'y ait pas eu d'accélération, parce que t'as un connard qui, sur les réseaux sociaux, va dépasser la limite et va les obliger à se poser des questions qu'ils ne devraient pas se poser encore.
Comment tes enfants, ils vivent le fait d'être les enfants d'une célébrité? C'est un truc qui commence à se concrétiser aujourd'hui à l'adolescence?
Je sais pas, mais c'est vrai qu'ils ont été habitués à ce que des gens me reconnaissent dans la rue. Mmh. Voilà. Des fois sans savoir qui c'était, hein, parce que le nombre de fois où les gens me disent vous êtes qui?
Tu vois, ça, c'est vrai. J'ai vu à la télé, mais.
Ouais, c'est ça. C'est la notoriété approximative. J'en avais fait un sketch dans un précédent spectacle où c'était en permanence. C'est-à-dire que tout le monde me reconnaissait, mais personne ne savait qui j'étais. Donc, ça, tu restes humble, hein, ça te monte pas à la tête. Par contre, c'est quelque chose qui est particulier parce que mes enfants ont toujours vu des inconnus venir me parler. Voilà. Après, et ça se passe bien, parce que moi, j'essaie d'être disponible pour les gens. Le seul truc qui est compliqué, c'est quand t'as un moment privilégié avec tes enfants, c'est le seul moment où je peux entre guillemets refuser quelque chose, parce que il y a des gens qui sont mal élevés aussi. Mmh. Hein. Moi, je me rappelle quand j'avais mon fils, j'habitais le 19e arrondissement, je le promenais sur le canal de l'Ourcq, j'étais avec la poussette et il y a quelqu'un qui me croise, qui me reconnaît. La personne fait demi-tour, vient, me dit pas un mot, penche sa tête dans la poussette pour voir la tête de mon fils. Se relève et repart, ne m'a pas dit un mot. Je suis resté, mais sur le cul, et je m'y attendais tellement pas que j'ai même pas dit, mais vous êtes des malades, quoi.
C'est fascinant.
Ah, c'est fascinant. Il voulait voir la tête de mon fils. Et même pas un mot, même pas un bonjour. Vous êtes papa. T'es un paquet, quoi. T'es un paquet, ils font ce qu'ils veulent, t'es un bibelot. Pendant des vacances, j'étais avec ma fille qui était fatiguée. On a été voir un spectacle équestre un soir et je la tenais dans les bras, elle dormait dans mes bras. Et t'as quelqu'un qui vient, on peut faire une photo, posez votre fille. Je fais, non, je suis désolé, mais vous voyez, ma fille, elle est endormie, je vais pas la poser, je vais m'occuper d'elle. Il y a des moments, je pense qu'elle a besoin, et puis je vais pas déposer une enfant endormie par terre juste pour faire une photo, je suis désolé. Donc. C'est particulier, je pense peut-être que cette personne se dit « Ah, quel connard celui-là, pour qui il se prend ?» Mais il y a des moments où, ouais, quand même.
Pour qui il se prend, enfin, vraiment.
C'est
pas impossible. Hein,
c'est ouais, ça. Non, c'est pas impossible, parce que tu peux te comporter 100 fois bien avec quelqu'un, personne ne le dira. Et si tu te comportes une fois de manière un peu plus normale pour moi, parce que honnêtement, j'ai jamais refusé quoi que ce soit, pour si ce n'est pour des bonnes raisons, y a toujours des gens qui diront « Ah,
Il a pris la grosse tête, le moine. »
Exactement, exactement. Donc voilà, tu sais que ça t'appartient pas, c'est pas grave.
Ok. Tu disais tout à l'heure que tu jouais au foot avec ta fille plus qu'avec ton fiston, c'est ça?
Ouais, j'ai joué avec mon fils pendant longtemps, et puis tu sens que maintenant, il n'y a plus tellement envie. Puis ma fille, de temps en temps, allez, on tape le ballon, elle est contente, et puis elle est très compétitrice, beaucoup plus que mon fils.
Ok.
Ouais, c'était particulier parce que je l'ai mis à plein de sports, et puis je suis pas sûr que ce soit une passion.
Ton fiston, tu veux dire,
Il est pas dans la compète. C'est-à-dire que c'était terrible je l'ai mis au hand, notamment à un moment, et j'allais lui voir, j'étais dans la tribune. Et, tu sentais qu'il était content de participer, puis parce que je lui disais de le faire. Et quand le ballon était à un bout du terrain, lui, j'étais sûr qu'il était à l'autre bout du terrain. Et puis, quand je le regardais, il me regardait dans la tribune, il me faisait des coucous. Et là, je dis, je pense que il a pas la niaque. Parce que je voyais des gamins qui se déchiraient pour avoir la balle, qui se foutaient des coups et tout. Et lui, non, c'était, c'est assez amusant. Parce que là, maintenant, il est vachement sur tout ce qui est jeu, en réseau, virtuel et tout. Mais, Mais pour le sport...
Pour le coup, il a la compète, tu veux dire, sur les jeux et tout, il est un peu en mode...
Je pense plus, ouais. Okay. Enfin, j'espère, parce que depuis le temps qu'il joue à Fortnite, j'espère qu'il a un niveau, parce que sinon, c'est vraiment du temps perdu. Mais en même temps, il est pas... Ça le rend pas malade s'il perd, quoi. Il est... Moi, je suis très mauvais joueur, ma fille, pareil. Lui, il est cool. Et c'est tant mieux, hein, c'est une chance.
Et donc ta fille fait du sport pour le coup ou...
Ouais, elle fait de la gym.
Ok.
Elle fait de la gym. Je sais pas. Quand ma fille globalement, t'as l'impression qu'elle prend de la cocaïne en permanence, que
ce qui n'est pas le cas.
Ce qui n'est...
Précisons-le.
Oui. Faut que je fasse attention. Non, mais parce que si tu veux, elle est dans la maison et elle fait des roues en permanence. Oui. C'est-à-dire que tu discutes avec elle, tu fais trois roues, une rondade, et tu dis mais et tu sens qu'elle a besoin. Tu sais, on disait que les coureurs cyclistes qui prenaient de l'EPO la nuit quand dans l'hôtel, ils étaient obligés de faire des pompes parce que il y avait trop d'énergie. Bah, je pense qu'elle a pris un truc comme ça parce que il faut qu'elle, même quand elle regarde la télé, elle fait des équerres, elle fait des trucs comme ça. C'est très particulier.
Et elle est dans la compète pour le coup.
Ouais. Alors elle est dans la compète. Non, c'est-à-dire quand on fait un jeu, elle supporte pas de perdre et elle peut rentrer dans des rages folles si elle perd. Vraiment. Elle part en toupie et puis elle peut disparaître, elle part en courant et puis elle revient plus tard et tout. Et à la gym, elle est dans la compète, mais elle est dans un... Ça fait quelques années maintenant qu'elle en fait et tu sens qu'elle est aussi contente de voir ses copines. C'est tout un groupe. Donc ça va. Si elle est... Il y a moins une envie de... Plus de partage que de compétition. Voilà.
Okay.
Parce que à part les compétitions de gym, t'es pas vraiment noté, quoi. Après, elle se rend compte que elle peut pas faire encore des choses que ses copines font, mais voilà, c'est une petite teigneuse.
Et comment tu, toi qui es dans l'humour et tout, comment ça se passe en fait à la maison? Est-ce que t'as transmis ce virus-là à tes mômes? Comment ça se, ou alors c'est des enfants très sérieux?
Non, ils sont pas sérieux du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai noté. J'aurais dû faire ça. Vraiment, je conseille à tous les parents de noter au fur et à mesure les mots d'enfant, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Ouais. Mais quel regret, je me dis, mais j'aurais pu sortir des bouquins. Moi, dans mon téléphone, j'ai des notes sur, parce que comme j'ai regretté pour mon fils, j'ai des notes de ma fille, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, et je note tout le temps, parce qu'elle a commencé tôt, quoi. Elle a commencé tôt et je me rappelle, elle avait 4 ans, je partais et je lui disais Violette, je m'en vais, je partais en tournée, et je pense qu'elle en avait un peu ras-le-bol que je sois absent, et elle voulait l'exprimer mais à sa façon, et je me rappellerai toujours, elle regardait la télé et puis fixe, et je dis Violette, je m'en vais, elle tourne même pas la tête, quoi. Je m'en vais, attention Violette, si tu me viens pas me faire un bisou, tu vas le regretter. Et là elle regarde pas, elle se tourne pas et elle dit juste moins que toi. Je suis waouh, d'accord, ok. Et donc.
4 piges. Pas mal.
4 piges, ouais. Le moins que toi, je me le suis pris dans les dents. Mais je me suis rendu compte que, en fait, avec sa mère, on a toujours parlé à nos enfants avec beaucoup de second degré, sans doute trop parfois, parce que c'est vrai que on a toujours manié l'ironie. Moi, c'est ma façon. La vérité, c'est que. Le premier degré est un langage que je maîtrise mal.
C'est la première fois que tu parles sérieusement dans un micro aujourd'hui.
Mais pas loin. Et puis même si tu veux, au bout d'un moment, je me dis merde, c'est pas ce que les gens attendent de moi.
Ah oui, c'est ça. T'as un peu ce truc de, il faut que je fasse le clown.
Mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est même si quand on me dit, tu sais, quand d'un seul coup tu sens cette pression, il faut que tu fasses rire les gens. Moi, ça me tétanise. J'aime bien le faire de manière naturelle, quoi.
Je comprends.
Et c'est vrai que un jour une institutrice de mon fils m'a dit, nous a dit dans les appréciations, c'est que Gaspard travaille bien et il a beaucoup de second degré. C'est comme s'il avait eu un 20 pour moi. Tu vois, c'était un cadeau. Et c'est vrai que j'ai dit tellement de bêtises à mes enfants. Tu vois, par exemple pendant le confinement. Je sais pas, parce que on savait plus quoi faire et moi je les ai mis à la peinture. On a repeint plein de murs dans la maison et tout, et donc c'était chouette, c'était des vrais moments de partage. Moi je suis pas du tout bricoleur, donc on était vraiment tous novices là-dessus. Mmh. Et finalement le résultat était pas mal, on était fiers. Et après je leur fais à manger. Je me rappelle, j'étais avec les deux, on mange des hamburgers. Et puis, je sais pas ce qui me passe par la tête. Je leur dis, les enfants, il faut que je vous avoue un truc. Et tu sens les deux qui me regardent un peu bizarre. Je fais, en fait, je suis pas votre père. Je suis pas votre père.
La 15 ans de thérapie.
Et je leur dis, je vous ai ramassé un feu rouge il y a longtemps, vous étiez orphelin. Et je vous ai élevé parce que je savais qu'un jour, j'allais repeindre des murs et je voulais pas payer des ouvriers. Donc maintenant que c'est fait, je vais vous ramener au feu rouge. Et ils m'ont regardé tous les deux. Et ils m'ont fait, je peux avoir des frites? Et là, j'ai compris que non seulement ils avaient du second degré et que j'avais aucune crédibilité auprès d'eux. Mais je leur dis que des bêtises en permanence. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le déchiffrent très très vite, quoi. Et ça fait du bien, ça fait du bien.
J'imagine.
Je pense que c'est pas juste pour me flatter, c'est parce que c'est une arme. Et ça va leur permettre d'appréhender plein de choses dans la vie, de prendre du recul. Et je fais pas exprès, moi. Ce que je te disais, c'est le premier degré, c'est une langue que je maîtrise mal. Alors ça peut être chiant de temps en temps, parce qu'en plus je suis très pince sans rire, donc... Il y a des gens que ça peut déstabiliser, les gens peuvent croire que je suis froid ou n'importe quoi. Non, c'est juste ma façon de faire.
Bah oui, et puis après, s'il y a une culture dans la famille qui fait comme ça, en fait, ça finit par devenir un langage, quoi.
Ouais, et puis moi, ma mère est d'origine vietnamienne. Okay. Elle est eurasienne. Et elle était pas non plus très expressive. Et je pense que aussi, elle m'a dit des choses quand j'étais gamin qui m'ont construit. Tu vois, quand j'étais gamin, j'étais comme tous les gamins, j'appelais souvent ma mère dans la maison. On avait été dans un pavillon de banlieue dans l'Essonne. Et je criais maman, maman, maman. Il y a des moments où on avait un peu marre, quoi. Et je me rappelle, et c'est des souvenirs à la fois drôles et traumatisants, c'est que ma mère criait très très fort à l'autre bout de la maison, elle est morte. Et quand tu dis ça à un enfant de 5 ans, c'est vraiment que t'as confiance en son second degré. Parce que. Voilà, moi j'ai eu une éducation un peu particulière là-dessus.
Bah, disons que ça te remet face à la finitude de la vie, quoi, tu vois.
Ouais, mais il est tôt, hein.
Oui, c'est très tôt.
Il est tôt pour avoir conscience de tout ça.
Tu parlais de tes enfants quand t'étais plus jeune, c'est ça, au début de...
Bah, j'ai eu, là c'est mon cinquième spectacle solo, et j'ai eu des enfants à partir du troisième. Et c'est vrai que dans le troisième, j'en ai parlé, et puis c'est vrai que t'es humoriste, tu parles de ce qui fait ta vie, et quand tu te prends la paternité comme ça, t'as envie d'en parler, évidemment, et j'en suis un peu revenu. J'en suis un peu revenu parce que je pense que même s'il y a de l'ironie, même s'il y a du second degré, quand tu parles de ton émerveillement d'être parent, je pense que pour les spectateurs, c'est aussi chiant qu'une séance diapo. C'est très difficile de faire partager ça, quoi. Et donc, là, dans le nouveau spectacle, je parle un peu de mes enfants, mais de manière ultra négative. Je pense que ça, tu peux partager des mauvaises pensées, parce que c'est des trucs qui sont libérateurs pour les gens, mais si c'est pour dire à tes enfants sont formidables, ça n'a pas trop d'intérêt. Et dans ce spectacle, honnêtement, comme je suis en lâchage complet, je vais très loin. Pour tout te dire, c'est la première fois où j'ai interdit à mes enfants de venir.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que je me dis, il va y avoir trop de questions après le spectacle. Donc voilà.
Ou alors, c'est l'occasion de voir le côté obscur de leur papa, quoi.
Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça, là, c'est en négociation parce qu'ils veulent venir, mais je suis pas sûr. Je trouve que vraiment, c'est un écueil, hein, de parler de ses enfants et de la paternité ou de la maternité. Je trouve celle qui a bien réussi ça, c'est Florence Foresti avec Motherfucker. Ouais. Là, pour le coup, elle a trouvé le bon angle et c'était un joli moment de partage. Mais en même temps, tu vis des trucs très incorrects dans Motherfucker. Mais sinon, si c'est juste dire mes enfants sont formidables, ils ont fait ça. Tu sais, je te parlais des mots d'enfant de ma fille, tout ça que j'ai noté, tu pourrais les retranscrire tel quel, tu dis ah ça va être bien. Non, je crois que ça serait chiant. Ça serait vraiment chiant parce que c'est ton petit plaisir et c'est vraiment la séance d'impôt que t'imposes ou pour t'imposer quand j'étais jeune.
Il y a un côté catharsis aussi, non?
Ouais, aussi, mais
enfin, je sais pas si t'as vu les sketchs de Louis C.K. sur ses enfants où il est horrible avec ses enfants, quoi, tu vois.
Voilà, je pense que l'angle, c'est ça. Okay. C'est si t'es un peu horrible et si Si tu provoques quelque chose chez les spectateurs qui les libère, parce que c'est vrai qu'on a du mal encore aujourd'hui à rire de ça, à dire que les spectacles d'enfants c'est de la merde, c'est important, c'est et pas que, hein. Moi j'explique dans le spectacle que grâce à cette vie de famille intensive pendant le confinement, j'ai appris à moins aimer mes enfants, tu vois.
Et c'est important aussi de se taper un peu dessus, je trouve.
Et c'est
libérateur.
Ah, c'est vraiment libérateur, ouais. Vraiment. Et donc, je le peu que je parle de mes enfants, je noircis le tableau, mais à mort.
Merci en tout cas. Bah, si vous voulez trouver une catharsis, vous pouvez
aller
voir Jean-Luc
sur scène. Je pense.
Écoute, merci beaucoup, Jean-Luc. J'ai deux dernières questions pour toi.
Ouais.
La première, c'est quel est le truc que t'aurais aimé qu'on te dise avant que tu deviennes père?
Déjà peut-être de me faire un peu plus confiance, et puis tu vois ce que je te disais tout à l'heure, ça c'est important pour l'adolescence, mais tu vois des conseils basiques. Après c'est compliqué, tu vois. Je crois que c'est Confucius, hein, qui a dit cette magnifique phrase, l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Et c'est juste, c'est très difficile, parce que je crois que
de transmettre, tu veux dire, ce genre
de transmettre globalement. Et puis surtout, je crois j'aurais voulu que quelqu'un me dise, parce que tu sais, tu pars avec des principes, tu dis tiens, je vais faire ça, je vais essayer de l'éduquer comme ça, et tu t'aperçois que finalement tous tes principes volent en éclats, tu t'adaptes et c'est pas grave, c'est la vie, et tu te débrouilleras bien, voilà. Parce qu'au début tu perds un peu pied, tu te dis mais putain, je suis pas à la hauteur, et non, c'est pas ça le truc. L'essentiel, c'est que tu sois présent pour tes enfants et que tu fasses au mieux, voilà.
Ce qui est pas mal. En fait,
ouais,
c'est
ouais.
Excellente mission si tu arrives à faire ça.
Ouais, c'est déjà un gros boulot.
Bon, l'autre question que je pose à tous mes invités, c'est si tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui?
Dans 10 ans c'est-à-dire qu'il faut faire un message pour eux dans 10 ans ou maintenant?
Ouais, pour eux dans 10 ans.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire, les enfants? Et non, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que là maintenant vous êtes des adultes, j'espère qu'on a un rapport apaisé, parce que de toute façon à un moment vous allez quitter la maison et tout. J'ai fait tout ce que je pouvais avec votre mère pour vous éduquer au mieux. Je suis pas sûr qu'on a tout réussi. Mais en tout cas, on y a mis beaucoup de cœur et vraiment, je suis devenu papa, pas sur le tard, mais 37 ans, c'est pas jeune non plus, mais vous êtes ce qui m'est arrivé de mieux, voilà. Et quand je dis ça, il n'y a pas de regret en me disant j'aurais dû le faire plus tôt, parce que peut-être que je l'aurais pas appréhendé pareil, mais ça a été un bonheur de vous accompagner jusque-là, et puis j'espère que ça va durer longtemps.
Bah, merci beaucoup.
Bah, merci Fabrice.
Où est-ce que les gens peuvent venir te dire coucou? C'est quoi ton réseau social préféré? C'est Instagram? C'est Twitter?
Ça a été longtemps Twitter, maintenant c'est plutôt Instagram.
Okay.
Ouais. Twitter, okay. C'est devenu... je m'en sers beaucoup pour suivre un petit peu les infos et pour suivre de quoi il en retourne un petit peu, et quels sont les sujets qui font l'actu, mais sinon c'est plus Insta.
Ok, donc Jean-Luc Lemoine, j'imagine.
Jean-Luc Lemoine officiel.
Jean-Luc Lemoine officiel, excusez-moi.
Mais non, parce qu'il y a plein de faux comptes.
Bien sûr.
Donc c'est celui avec le petit truc bleu.
La petite pastille. Ouais. Je mettrai le lien dans les notes. Tu sais, ça marche comme ça dans les podcasts, tu peux mettre les notes et tout. Et puis je mettrai également le lien pour que les gens puissent venir te suivre sur tes différentes dates, quoi.
Ouais, carrément.
Un grand merci à toi en tout cas pour le partage, c'était vraiment cool.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joel Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.